La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Et au menu de notre club cet après-midi, les dernières nouvelles de Sapiens avec une paléo-anthropologue, un savant sur les planches avec une directrice de théâtre et une bande dessinée de sciences improbables avec une illustratrice et un journaliste qui n'ont rien d'improbable. Et je vous présente mes invités, bien sûr, dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science cet après-midi, un anniversaire, bien que on célèbre quasiment à la minute près. Là.
Mais oui, il y a 50 ans, à 14h05, l'équipage d'Apollo 8 commençait avec un tour de la Terre, l'une des missions les plus importantes de l'histoire de la course à la Lune. On vous raconte la suite, une dizaine de tours autour de la Lune dans un instant.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise ce club préparé par Lucie Sarfati et Chantal Le Montagnier.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et je salue mes invités Sylvana Condemy, Elisabeth Bouchot, Zoé Touron, Pierre Barthélémy. Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Et bonjour aussi à Sophie Becherel qui est là comme tous les vendredis. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Sylvana Condemy, vous publiez Dernières nouvelles de Sapiens chez Flammarion. Ce sont donc les dernières nouvelles qui nous concernent, notre espèce. Est-ce que ça change beaucoup d'ailleurs au gré des découvertes récentes?
Ah oui, au cours de ces dernières années, il y a eu un certain nombre de découvertes, un certain nombre d'études qui ont vraiment changé un peu notre vision de voir Homo sapiens.
Quelle est l'étude finalement ou la découverte la plus importante selon vous ces tout derniers temps là?
Jusqu'à il y a encore très peu de temps, au moins 2 ans, on parlait d'un Homo sapiens qui avait son origine en Afrique de l'Est. Et on s'est rendu compte que si Homo sapiens est une espèce africaine, en fait, son origine n'est plus parsemée en Afrique. On en a trouvé en Afrique du Nord, en Afrique du Sud. Et il semblerait que ce soit plutôt une espèce panafricaine.
Ouais, et 300 000 ans aussi pour la datation. Donc, on va en reparler avec vous, évidemment, dans un instant. Sophie Becherel, votre coup de cœur cette semaine.
Pour une expérience artistico-savante, imaginée donc par Isabelle Bouchot, la directrice du Théâtre de la Reine Blanche, vous donnez tous les 2 mois l'occasion à une ou un scientifique de parler différemment en fait de sa spécialité.
Absolument. Ce qu'on essaye de faire, c'est finalement de donner une conférence grand public, mais qui est illustrée, mise en écho, interprétée par des artistes. Ça peut être extrêmement varié. On a déjà eu avec Clotilde Policar, chimiste, les métaux, la vie et le chimiste. Où elle travaillait avec une comédienne qui était aussi peintre et qui nous peignait un tableau périodique des éléments sur scène. Et puis la dernière en date, c'était Philippe Claudin, physicien spécialiste de la forme des dunes. Et nous avons fait grâce à lui le tour du monde, le tour des déserts du monde plutôt en musique.
On va y revenir donc avec vous Elisabeth Bouchot donc dans quelques instants. Et puis Zoé Touron et Pierre Barthélémy ensemble pour une bande dessinée Les Improbablologies. Merci pour les animateurs de radio, hein, c'est le titre le plus impossible à raconter. C'est chez Duno, adaptation illustrée de vos chroniques Pierre Barthélémy dans Le Monde. La science improbable ne vous quitte plus hein?
Ne me quitte plus alors que je l'ai quitté il y a bientôt 2 ans. Mais c'est vrai que on avait envie de faire cette adaptation en BD pour toucher d'autres publics et raconter les histoires différemment.
Zoé Touron, est-ce que c'est votre premier pas dans la science justement en tant qu'illustratrice?
Dans la science à proprement parler, oui.
Ouais. Ça vous a amusé ce travail?
Beaucoup.
Ouais. Faut dire que le choix des études est plutôt amusant.
C'est ça, c'est qu'il a fallu que je fasse une sélection parmi un certain nombre de chroniques qui déjà chacune était assez drôle. Et le choix s'est fait assez naturellement ensuite.
On va parler de votre travail justement ensemble, comment vous avez travaillé pour donner naissance à cet album qui est donc disponible chez Duno. Et on se retrouve avec les auditeurs de l'émission qui nous rejoignent bien sûr avec les messages et les questions sur le site de La Tête au Carré.
Oh my God, look at that picture over there. Earth coming up. Wow, is that pretty. Hand me a roll of color quick.
Oh man, that's cool. Hurry. Where is it?
Quick, just grab me a color.
Bill, I got a phrase that's very clear right here. You got it?
Yep.
Well, I got it right. Oh, that's a beautiful shot.
Voilà, alors c'est l'astronaute Bill Anders qui découvre et photographie pour la première fois un lever de Terre. C'était le 24 décembre 1968. Vous avez tous vu cette photo et Axel Villard à la une aujourd'hui. Eh bien, c'est le récit justement de la mission Apollo 8 et c'était il y a tout juste 50 ans.
Et tout commence le 21 décembre 68. Trois Américains, Frank Borman, James Lovell, Bill Anders, partent à bord de la fusée Saturn V pour faire le tour de la Lune. Une mission qui a une chance sur deux d'être un suicide, on le sait, mais la course avec les Russes est plus importante. On y va quand même. À l'heure où nous nous parlons, les trois hommes sont en orbite autour de la Terre et se préparent à faire la grande traversée. Et pour raconter la suite, nous accueillons quelqu'un qui la connaît bien mieux que moi, Philippe Hénarejos. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le rédacteur du magazine Ciel et Espace qui s'est transformé ce mois-ci en revue historique puisque vous retracez en détail cette mission fondatrice. Et on découvre au début du dossier que c'est l'histoire d'un départ précipité et extrêmement risqué.
Oui, parce que en fait... Il n'était pas prévu qu'en décembre 68, les Américains envoient une mission vers la Lune. Ils devaient encore constituer un certain nombre d'expériences autour de la Terre et notamment tester le module lunaire à très haute altitude, mais autour de la Terre. Il se trouve que le module lunaire, donc l'engin qui doit permettre à deux astronautes de se poser sur la Lune, n'était pas du tout au point. C'était une véritable catastrophe, la mise au point de ce module lunaire. Et qu'en même temps, au mois de mars 1968, les Russes avaient déjà envoyé un vaisseau automatique faire le tour de la Lune. C'était un Soyouz allégé. Et les Américains se sont fait une frayeur à ce moment-là parce qu'ils ont entendu des cosmonautes discuter avec le centre de contrôle russe et ils pensaient qu'il y avait du monde à bord.
Or, c'est ça, ouais.
En fait, ils essayaient la chaîne de communication. Ils avaient intercepté les communications, les Américains. Et donc, vu le retard et vu que les Russes risquaient encore une fois d'être les premiers, je rappelle, le premier Spoutnik, premier homme dans l'espace, premier homme à sortir dans l'espace un scaphandre, donc ça en était trop. Il y a un des hauts responsables de la NASA, George Low, qui était un ingénieur très brillant, qui au mois d'août dit ben le module lunaire n'est pas prêt, on va quand même faire le voyage, ça nous apprendra comment on va vers la Lune et on attendra pour le module lunaire plus tard. Alors l'administrateur de la NASA à l'époque lui répond qu'il est complètement fou, que enfin ils ont peur vu cette proposition assez hardie. Et finalement, en réfléchissant, en pesant le pour le contre, les Russes, le retard, etc. Fallait quand même avancer. Ils ont dit « Ok, on y va ».
Malgré les risques, parce que les calculs sont faits et ils savent en partant qu'ils ont de grandes chances de ne pas revenir.
Le risque, il est énorme parce que la fusée qui doit les propulser, elle s'appelle la Saturn V, c'est un énorme vaisseau. Il n'y a pas eu de fusée aussi grosse depuis. 111 mètres de haut, 10 mètres de diamètre, 3000 tonnes au décollage. Et donc cette fusée, elle a volé deux fois sans équipage. Et le deuxième vol a failli tourner à la catastrophe, ça marchait vraiment pas bien. Et donc au cours du troisième vol, on met trois hommes dedans et on leur dit « vous partez vers la Lune ».
Bonne chance les gars.
Et le décollage est réussi, puisqu'à l'heure où nous nous parlons, il y a 50 ans, les hommes ont coupé les moteurs, ils tournent autour de la Terre et ils se préparent à traverser. Pourquoi ils attendent pour aller vers la Lune ?
Alors ils attendent parce qu'ils doivent faire une orbite et demie à peu près, pour vérifier que tout va bien à bord, que les moteurs fonctionnent, que tous les systèmes sont opérationnels, avant de se lancer sur cette trajectoire qui va les amener à s'arracher à l'attraction terrestre et à partir vers la Lune. Personne n'a jamais fait ça avec un équipage. Et une fois qu'on est lancé sur cette trajectoire, il est bien difficile de faire demi-tour. On le verra d'ailleurs plus tard, en 1970, avec Apollo 13, quand il y a un gros problème à bord. Ils sont obligés d'aller contourner la Lune pour revenir. Donc on prend une orbite et demie, et surtout Frank Borman, qui est le commandant, est un astronaute qui a déjà beaucoup d'expérience et qui est très méticuleux, très précautionné. Il veut absolument que tout soit prêt, parce que une fois lancé vers la Lune, leur sort ne dépendra plus que d'un seul moteur, le SPS. C'est un moteur unique qui propulse la capsule, qui doit s'allumer pour les insérer en orbite lunaire et qui doit aussi se rallumer pour leur permettre de revenir vers la Terre. Il n'y a pas de moteur de secours. Donc si ce moteur ne fonctionne pas, ils peuvent être perdus dans l'espace, ils peuvent s'écraser sur la Lune et ils peuvent aussi mourir en orbite lunaire.
Quand on dit que la mission, c'est de découvrir la face cachée de la Lune avec des hommes à bord, c'est la mission comme on l'a décrit après ou au moment où ils partent, c'est ce qu'ils vont faire?
C'est ce qu'ils vont faire, mais la mission est surtout pour aller voir aussi des sites d'atterrissage pour Apollo 11, la mission qui est prévue pour se poser au mois de juillet 69, si tout va bien. En fait, ils vont quand même observer la face cachée, parce qu'à l'époque, il y a quand même, ça a été cartographié par des sondes automatiques, mais c'est pas terrible. Il y a des incertitudes de 300 km sur la position de certains cratères. C'est quand même une cartographie assez limitée, donc Donc, ils ont un programme photographique et ils ont surtout un programme qui consiste à observer où on pourrait se poser sur la Lune.
Et bien sûr, il y a ce cliché emblématique qu'on voit arriver. C'est la photo du lever de terre prise par Bill Anders le jour du réveillon de Noël 68. Pourquoi est-ce qu'ils doivent attendre le troisième tour de Lune pour voir la Terre se lever à l'horizon? C'est comme ça que ça s'est passé.
Oui, parce qu'en fait, jusque-là, donc l'insertion sur l'orbite lunaire a bien marché. Et c'est un peu comme dans Tintin, il y a manœuvre de retournement avec la fusée Tintin. On fait de la rétrofusée avec le moteur. Donc on avance à reculons avec le moteur devant et le pare-brise à l'arrière. Donc chaque fois qu'on apparaît, qu'on sort du bord de la Lune, on ne voit pas la Terre. Et au bout de la quatrième orbite, les astronautes orientent le vaisseau différemment, avec la tête en bas pour pouvoir mieux regarder la Lune, et amorcent une rotation. Et à ce moment-là, dans l'un des hublots, Bill Anders voit la Terre apparaître pour la première fois.
Et on va écouter un son, c'est une interview que vous avez menée en 2016 de Bill Anders, qui va raconter ce moment, la prise de la photo.
Je crois que j'étais le premier à voir la Terre. Quand nous avons tourné sur nous-mêmes et que nous avons commencé à avancer en marche avant, mais toujours avec la tête vers le bas, regardant vers la Lune. Jusque-là, nous avions avancé à reculons et nous n'avions jamais vu la Terre se lever au cours des trois premières orbites. Quand on s'est repositionné au-dessus de la face cachée de la Lune, par hasard, j'ai vu la Terre par mon hublot et je me suis exclamé « Les gars, regardez ça !» Lovell et finalement Borman l'ont vu aussi.
Et cette photo est prise, elle aura un impact énorme sur l'humanité entière, c'est ce que vous décrivez dans
le
magazine.
C'est la première fois que des humains photographient la Terre, toute l'humanité sauf eux, et qu'on voit la Terre comme un vaisseau spatial toute petite au loin, dans un ciel tout à fait noir, devant un corps céleste qui est totalement mort et sans couleur. Et c'est la première prise de conscience, c'est l'une des photos du XXe siècle qui fait prendre conscience qu'on est tous dans le même vaisseau spatial et qu'il faut en prendre soin. Ça fait un bel écho aujourd'hui, 50 ans après.
Et vous êtes l'auteur d'un livre, hein, Philippe, Ils ont marché sur la Lune, chez Belin. C'est une année importante pour les missions Apollo,
oui,
évidemment.
Je raconte toutes les autres explorations où là, les gars sont allés marcher
directement
et rouler en jeep lunaire sur les étendues
absolument
désolées de la Lune.
Et 2019 sera une année importante pour célébrer tout cela, évidemment. Merci beaucoup, Philippe Hénarejos. Axel, merci.
Merci.
Et très bonnes vacances.
Merci.
À bientôt.
Oh,
Sundress. C'était ASAP Rocky à l'instant.
La tête au carré, le club.
Voilà, au sommaire de ce club d'avant-vacances, les dernières nouvelles de Sapiens, un savant sur les planches et puis une bande dessinée de science improbable. Et bien sûr, vous pouvez nous rejoindre en direct avec vos messages et toutes vos questions sur franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. On va commencer avec vous, Sylvana Candomy. Vous êtes paléo-anthropologue, directrice de recherche au CNRS à Aix-Marseille Université. Et vous êtes co-auteur avec François Savatier de cet ouvrage « Dernières nouvelles de Sapiens » qui paraît chez Flammarion. Pourquoi est-ce que vous dites qu'il y avait urgence finalement à faire le point sur nos ancêtres sapiens? Elle était où l'urgence?
C'est-à-dire que on parle beaucoup des Néandertaliens, mais de Sapiens, finalement, on a l'impression de connaître Sapiens, puisque nous sommes des Sapiens. Et au fait, c'était intéressant de faire un peu le point, d'une part parce qu'il y a des nouvelles recherches, oui. D'autre part parce que tous les jours, on a des nouvelles de Sapiens et de métissage qu'il a eu en dehors de son berceau africain, en Asie avec les Denisoviens, en Europe avec Néandertal. On apprend aussi qu'il y a des Sapiens qui, à 73 000 ans, ont fait de l'art, etc. Donc, il y a beaucoup de nouvelles.
Il y a de l'actu.
Il y a de l'actu, oui, effectivement. Ouais. Et il y a surtout des nouvelles méthodes d'analyse qui permettent d'aller beaucoup plus loin dans les recherches, et c'était important de préciser quelques points importants.
C'est la paléogénomique à laquelle vous faites allusion en particulier?
Oui, la paléogénomique, aussi les études sur les isotopes qui permettent aussi de comprendre quel est le régime alimentaire, les climats du passé, donc énormément de nouveaux travaux qui permettent d'avoir une vision aujourd'hui beaucoup plus complexe qu'on a eu de... Homo sapiens et surtout de nos origines.
Pourtant, il y a des grands succès de librairie là récemment autour de Sapiens justement.
Ah, vous faites allusion au livre de Harari?
Oui, bien sûr.
Mais c'est un livre qui est très intéressant parce que justement, il permet pour la première fois peut-être de réfléchir comment nous sommes devenus ce que nous sommes. Oui. Et donc c'est un peu différent de notre livre. Je fais la publicité quand même pour le mien et pour celui que j'ai écrit avec François Savatier. Parce que ce que nous voulons faire dans ce livre, c'est de faire voir que tout ce qui est caractère anthropologique d'Homo sapiens, la bipédie, l'outil, la culture, également le métissage, beaucoup de choses, la nourriture, le système de vie de Sapiens, et c'est un système qui n'est pas nouveau. Il n'y a pas, comme le dit Harry, une révolution cognitive, mais ce que nous montrons dans ce livre, c'est que beaucoup de choses viennent de très très loin, et c'est surtout la culture qui a fait Homo sapiens.
Est-ce que des gens autour du micro d'ailleurs ont lu Sapiens d'Harari ou pas, parce que ça a été... Personne ne l'a lu. Ah ben ça c'est étonnant, parce qu'il a vendu je ne sais pas combien de millions d'exemplaires dans le monde.
Et il a été traduit, je crois, en 16 langues.
Alors c'est marrant, parce que dans le milieu scientifique, c'est plutôt un livre qu'on critique un peu, chez les paléanthropologues en particulier quand même.
Oui, moi je suis un peu moins sévère que mes collègues. Oui, moi je suis moins sévère que nos collègues, parce que je pense que c'est un livre qui au contraire nous apporte beaucoup et apporte beaucoup. C'est dès qu'on parle de paléanthropologie et de sapiens, on fait référence à ce livre. Ça permet peut-être de préciser une ou deux choses, mais c'est intéressant.
Bon, est-ce que Sapiens est vraiment une espèce à part? Alors, dans cette grande famille, dans ce buisson justement de l'humain, est-ce que on a vraiment des particularités qui nous distinguent très nettement des autres?
Des autres espèces humaines qui ont vécu autrefois? Oui, aujourd'hui nous sommes très différents. Mais nous ne l'avons pas toujours été. Même les premiers Homo sapiens n'étaient pas très différents des autres populations humaines, des Néandertaliens. Au moment où Sapiens arrive sur le sol européen, il n'est pas très très différent. Ce qui nous a vraiment changé, c'est que notre histoire, c'est une histoire de cueilleurs-chasseurs qui devient producteur de nourriture. Et il se passe quelque chose de très très important, c'est que quand on change d'économie, quand on devient producteur de nourriture, et bien avant d'ailleurs, c'est un processus, là encore on fait voir dans ce livre avec François Savatier, que c'est un processus qui a été très très loin, et très très long. Il n'y a pas eu de véritable révolution néolithique, c'est quelque chose qui s'est amorcé sur 20 000 ans. Eh bien, aujourd'hui nous sommes les sapiens très différents des premiers sapiens qui sont sortis d'Afrique.
D'ailleurs, c'est ce qui résume aussi finalement ce que vous nous dites dans ce livre, c'est cette évolution douce au fond de l'espèce.
Oui, parce que qu'est-ce qui nous caractérise? La bipédie, mais la bipédie n'est pas propre au genre homo, elle a commencé avant. Il y a des ardipithèques qui sont des bipèdes, il y a des australopithèques. Qu'est-ce qui nous caractérise? L'outil. Nous savons aujourd'hui, vous en avez fait une émission, que l'outil n'est pas le propre de l'homme, il a été inventé peut-être par des australopithèques. Donc on se rend compte qu'en fait, c'est cet ensemble de caractères biologiques et caractères culturels qui a fait que nous sommes devenus ce que nous sommes devenus, jusqu'à devenir ce que nous sommes aujourd'hui, des êtres hautement sociaux et hautement coopératifs. Et aujourd'hui, c'est notre caractéristique.
L'homo sapiens. Pierre Barthélémy a une question à vous poser.
Oui, j'ai une question parce qu'il me semble qu'il y a aussi dans le, ce qui fait la particularité d'Homo sapiens, c'est que dans l'histoire buissonnante du genre, finalement, c'est le premier qui se retrouve tout seul.
Ah ben c'est notre caractéristique. Aujourd'hui, nous sommes la seule espèce humaine. Et ce qui est aussi intéressant, c'est pas que nous sommes tout seuls sur la planète, mais nous occupons toutes les latitudes, tous les climats. C'est-à-dire ça, c'est vraiment une première. Mais je pense que c'est dû à notre culture. Si nous n'étions pas ce que nous sommes, des êtres extrêmement sociaux et coopératifs, capables d'une très grande adaptabilité, nous ne serions pas partout et nous n'aurions pas occupé tous les territoires et...
Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle finalement que nous soyons les seuls aujourd'hui? Parce que la diversité aussi génétique, elle est importante. Et est-ce qu'on n'est pas finalement dans une espèce de goulot d'étranglement de notre espèce?
C'est-à-dire que nous sommes tellement nombreux, nous avons une démographie tellement galopante qu'on n'est pas vraiment dans un goulot d'étranglement. Ce qui peut être difficile, c'est que nous sommes une espèce qui vivons, comme toutes les autres espèces, des ressources de la Terre. Mais nous sommes dans une époque dans laquelle nous sommes en train d'épuiser ces ressources de la Terre. C'est ça le plus grand danger qui nous guette aujourd'hui.
Elisabeth Bouchot, est-ce que vous avez déjà présenté une pièce au Théâtre de la Reine Blanche uniquement sur Sapiens?
Non, mais ça me donne beaucoup d'idées. Bah oui, parce que... je crois que je vais lire votre livre avec
Mais même quand on voit le succès d'Harari, on se dit qu'il faut absolument faire une adaptation au théâtre, au cinéma, parce qu'il y a quelque chose... Et finalement, on s'intéresse beaucoup à nous-mêmes,
C'est-à-dire que quand on travaille sur les fossiles, de toute façon, on est obligé de travailler sur nous-mêmes Homo sapiens, parce que par exemple, les Néandertaliens sont toujours en rapport avec nous sapiens. Les Denisoviens, c'est par rapport à nous sapiens. Leur mode de vie par rapport au nôtre. Et on essaye à chaque fois de voir qu'est-ce qui nous caractérise. Ce qui nous caractérise, c'est que nous sommes une espèce qui envahit toute la planète, une espèce qui a une très longue longévité, une espèce qui a très peu d'enfants, si on compare aux poissons qui ont des milliers d'œufs. Mais nos enfants, nous les protégeons, nous sommes capables de le faire arriver à le stade adulte, qui soient capables de se reproduire, et nous vivons pendant très longtemps, même après notre époque de reproduction, ce qui nous permet aussi d'élever les enfants des autres, éduquer les enfants des autres. Et ça, c'est une de nos caractéristiques quand même.
On a aussi un pouvoir de nuisance assez exceptionnel, non, en tant que homo sapiens,
Oui, je pense. Ouais. Si on regarde aujourd'hui l'état de la planète, Et puis quand on voit l'expansion d'Homo sapiens, on voit que parallèlement, c'est la diminution de la diversité des espèces.
Sylvana Condomy, on va partir justement en Afrique du Nord à l'occasion des découvertes les plus récentes, qui a fait reculer justement l'âge d'apparition d'Homo sapiens sur le continent africain à 300 000 ans. C'était Djebel Iroud en 2017, c'est très récent.
Oui, c'est très récent.
Et on va écouter justement un son d'actualité du mois de juin dernier.
Si Homo sapiens, l'homme moderne, vivait bien il y a 200 000 ans au sud-est de l'Afrique, l'équipe du professeur Hublin vient de démontrer que 100 000 ans plus tôt, d'autres Homo sapiens peuplaient déjà le nord-ouest du continent. Des fragments fossilisés de 5 individus ont été découverts par hasard au Maroc dans une mine de Djebel Iroud. La datation est formelle, moins 300 000 ans, ce qui change complètement le scénario établi de l'apparition de notre ancêtre Homo sapiens sur le continent africain.
Notre idée, c'est que le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Mais c'est tout le continent africain. C'est-à-dire, s'il y a un jardin d'Éden, c'est un jardin d'Éden de la taille d'un continent, avec des phénomènes très complexes qui s'y passent, des échanges entre des populations.
Ses ancêtres ont des faciès modernes, mesurent 1m60, ont d'excellentes dents. Leur crâne, en revanche, est plus plat. Le cerveau est encore en développement.
Voilà, Jean-Jacques Hublin, le découvreur
de Djebel
Iroud avec son équipe marocaine, justement. Ça a été une information très importante.
Ah, très importante, parce que comme
ça
je vous
rebat
dis,
les cartes quand même.
Parce qu'on pensait vraiment à une origine unique en Afrique de l'Est, et là on se rend compte qu'il y a des fossiles en Afrique du Nord, il y en a en Afrique du Sud, et au fait, avant même d'être sorti d'Afrique, Homo sapiens s'est métissé à l'intérieur même de l'Afrique.
L'origine africaine, elle ne fait absolument aucun doute.
Elle ne fait pas doute.
Jamais on ne trouvera un autre berceau. Ça, on peut en être sûr aujourd'hui ou pas? Parce qu'on entend des choses parfois.
En science, on peut pas dire jamais. Ouais. Mais aujourd'hui, il est clair que le berceau d'Homo sapiens, c'est l'Afrique, exactement comme le berceau des Néandertals, c'est l'Europe.
Oui. Mais jamais en Asie, on trouvera un ancêtre d'Homo sapiens.
Écoutez, tous les ancêtres d'Homo sapiens sont africains. Ça voudrait dire qu'on a pas trouvé beaucoup d'ancêtres. Aujourd'hui, on n'en a pas trouvé en dehors de l'Afrique. Hein, oui. Mais on...
Ça, ce serait un sacré scoop, en tout cas.
Ah, ce serait un scoop. Ouais. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que Homo sapiens, quand il est sorti du berceau africain, il s'est mélangé avec d'autres humains en dehors de l'Afrique.
Ça, le rôle de la culture, ça, c'est absolument central aussi.
Ah, c'est central.
C'est ce qui nous distingue aussi, pour le coup, vraiment.
Je dirais que c'est la culture, parce qu'au bout d'un moment, c'est l'évolution biologique. Elle est importante, mais elle est dirigée par la culture. Elle est dirigée par la culture, par la prédation, par la chasse, par la coopération, par le feu, par tout ce qui a fait notre mode de vie. Et la culture est la chose la plus importante, effectivement.
Qu'est-ce qu'on entend d'ailleurs par culture, au fond?
Alors nous, on
quand
utilise
on parle de l'histoire humaine.
Alors les outils, ça fait partie de ce qu'on appelle la culture. Le fait de fabriquer des outils, le fait de découvrir le feu, d'avoir des innovations. Tout ça fait partie de ce qu'on appelle le monde culturel. Le fait d'utiliser des parures, des coquillages, d'avoir des gros tournées, tout ça, on le met dans le terme culture.
Voilà. Et puis parmi les découvertes les plus récentes, on le disait aussi avec Néandertal, c'est le métissage. D'ailleurs, c'est étonnant parce que finalement, quand on regarde tout ce qui s'est passé ces dernières années, c'est assez époustouflant. Parce que le métissage, justement, avec Néandertal, on l'ignorait complètement il y a 10 ans.
Bah, c'est-à-dire que les premières preuves vraiment concrètes, c'est avec la paléogénétique. Parce que nous, paléoanthropologues, on avait bien dit que certains fossiles n'avaient pas une tête 100% néandertalienne et 100% sapiens. Mais ça reste difficile à prouver. Mais là, c'est d'une façon indiscutable avec la paléogénétique, avec la génétique. Oui. Et ce qu'on se rend compte, c'est que sans doute aussi le métissage a été quelque chose d'extrêmement important pour Sapiens. Ça lui a permis déjà un métissage génétique, mais sans doute s'il y a métissage génétique, il y a eu aussi métissage culturel, et ça lui a permis de coloniser des territoires dans lesquels il n'était pas adapté.
Oui. Pierre Barthélémy, d'ailleurs, je crois que c'est dans Le Monde qu'il y avait un article récent sur les rivalités en paléoanthropologie et sur les ossements. Vous avez fait un long dossier passionnant là-dessus.
Non, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est vrai que c'était plus ancien, puisque ça parlait d'Aurorine et de Toumaï, et c'est vrai qu'il y a quand même dans ce milieu, souvent, oui, la guerre des eaux, il y a quand même souvent des rivalités assez franches. Il faut dire que les fossiles ne sont pas très nombreux, donc il y a un peu une course aux fossiles.
Ouais, Sylvana Condomi, vous l'avez lu cet article ou pas?
Oui, bien sûr.
Alors, c'est la guerre dans votre milieu, non?
Oh, écoutez, oui, parfois les choses ne se passent pas toujours très très bien, puis vous savez...
vous êtes très diplomate.
Non, mais les choses ne se passent pas très bien. Puis vous savez, derrière tout ça, moi je crois qu'il y a aussi peut-être une petite question aussi financière. C'est-à-dire, il y a très peu d'argent pour la recherche. Quand on trouve quelque chose, bah, il faut faire aussi un peu de publicité. Grâce à vous d'ailleurs, on est invité, on en fait.
Mais Pierre a raison, il y a très peu de fossiles. C'est ça aussi, ça tient tellement peu de choses. Hein.
Oui, ça tient à peu de choses, mais aujourd'hui on a quand même une façon de faire parler ces peu de fossiles. Par exemple, même des fossiles qui ont été trouvés il y a très très longtemps, nous avons des nouvelles méthodes pour les faire parler, à des méthodes plus innovantes. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un caractère de Sapiens de ne pas aimer tout le monde et d'avoir parfois des rivalités.
Bon, ben voilà. Quel est ce pied en couverture du livre?
Alors, c'est un pied d'Homo sapiens qui a été trouvé donc, en couverture. Donc, ce pied, un pied d'Homo sapiens qui a été trouvé il y a environ 1,8 million sur les rives du lac Turkana et qui montre qu'il y a 1,8 million.
Un pied d'Homo sapiens, il y a 1,8 million.
Non, c'est pas un pied d'Homo sapiens, c'est un Homo ergaster.
Ah oui, voilà.
Mais il montre ce pied que Homo ergaster avait un pied extrêmement semblable au nôtre. Il était capable de marcher bien debout et de courir. Et on le trouve au milieu de beaucoup de restes de chasse. Mmh. Donc, il était déjà un bon chasseur.
Merci beaucoup, en tout cas. Dernière nouvelle de Sapiens, c'est chez Flammarion. Sylvana Condomi, vous restez avec nous dans un instant. On parle science aussi, mais au théâtre cette fois-ci.
Sous se jeter de tout du haut de la tour. Les gens quand ils sont les uns dans les autres, quand ils sont peau contre peau, quand ils ont bien refermé la porte, se disent-ils des mots, des choses que l'on chuchote et qui font que la peau aspire la douceur de la phrase, la syllabe presque.
Les gens, c'était la voix de Miossec à l'instant.
Le club sur France Inter.
Et tous les vendredis dans le club, Sophie Bécherel vient nous parler et nous livrer ses coups de cœur.
Oui, et notamment sur la rencontre entre art et science. Mmh. Et donc aujourd'hui, Elisabeth Bouchaud est là pour nous en parler. Vous êtes physicienne au CEVA, mais directrice de la Reine Blanche, cette scène théâtrale qui, en quelques années, est devenue assez incontournable. On l'avait évoqué en septembre, quand Jean Alibert, le comédien, était venu nous parler de la pièce sur Galilée, le mécano, qu'on avait beaucoup aimé. Cette fois-ci, donc, des savants sur les planches, c'est l'occasion, à peu près une fois tous les deux mois, donnée à un chercheur ou une chercheuse, de venir parler donc de sa spécialité, mais d'une manière un petit peu différente. Comment vous est venue l'idée? Comment avez-vous choisi notamment les scientifiques? J'imagine qu'après c'est eux qui peut-être s'entourent d'acteurs, de musiciens, de jongleurs.
Alors ça dépend. Effectivement, il y a des spectacles que j'ai eu l'occasion de voir à l'occasion de la fête de la science, par exemple. Je pense en particulier au spectacle de Florent Hiver, qui est mathématicien et informaticien, et qui nous montre, par exemple, ce que c'est qu'un modèle informatique en interagissant avec un jongleur. Alors le jongleur jongle avec des quilles de couleurs et des cubes et des balles. Et puis Florent, qui est lui-même amateur jongleur, il vient et il retire petit à petit les quilles, puis les cubes, puis les balles d'une autre couleur. Et finalement, on se rend compte qu'on a toujours du jonglage, toujours la même trajectoire en fait des balles, mais c'est beaucoup plus simple. Et donc ça permet aux gens qui ne se sont jamais posé la question de savoir comment on fait pour modéliser un phénomène complexe, par exemple avec un programme informatique, mais ça peut être aussi bien sûr en mathématiques, en physique, eh bien de se rendre compte de ce que c'est, très visuellement, très simplement. Donc,
c'était le cas d'un spectacle qui existait déjà.
Soit on les fabrique, et donc je discute beaucoup avec des scientifiques que je choisis parce que je sais qu'ils ont envie de communiquer ce qu'ils font au grand public.
Il faut être capable d'aller sur scène quand même, hein. Et puis il faut avoir quelque chose.
D'aller sur scène, ça c'est pas le cas de tout le monde effectivement. Et donc, je discute, comme avec Clotilde Policard, dont je parlais tout à l'heure, qui est une chimiste qui fait de la chimie des métaux. Et puis, en discutant avec elle, la chimie des métaux, par exemple, les métaux en solution, c'est des couleurs. Et puis, les métaux dégradés, comme la rouille, ce sont des textures. Et évidemment, qui dit couleur et texture, ça donne envie d'illustrer le propos par de la peinture. Voilà. Et comme elle avait aussi envie qu'on lise des textes, qu'on lui donne la réplique, qu'on fasse des petites choses sur scène, moi je connaissais Coralie Emilion Langui avec laquelle on avait travaillé, qui se trouve être une très bonne comédienne, mais qui est aussi peintre. Voilà.
Alors, cette semaine, mardi, c'était donc Philippe Claudin qui nous a parlé donc des milieux granulaires, en l'occurrence du sable et des dunes, et qui lui a souhaité s'entourer de musiciens qui ont plus ou moins improvisé sur ce thème-là. Et effectivement, on voit que lui, c'est pas un professionnel, c'est vraiment un scientifique dans tout son...
Qu'est-ce que vous voulez dire, Sophie? Dans toute sa splendeur? Ça...
Non, dans toute sa splendeur. Au sens où, oui, on voit bien tout... C'est vraiment pas un acteur. Il nous donne une conférence avec grand 1, grand 2. Vous l'avez laissé proposer cette forme-là, assez voilà. Finalement conférence.
C'est un peu une carte blanche que je donne aux scientifiques. L'intérêt, c'est aussi de montrer qui sont les scientifiques au grand public.
Dans leur variété.
Dans leur variété. Clotilde Policard, encore une fois, parlons d'elle, avait écrit un texte, quasiment un texte de théâtre, où on parlait de chimie, mais où il y avait un dialogue entre elle et la comédienne pour parler de chimie. Mais Clotilde est une fan de théâtre, elle a l'habitude de ça, et elle a le goût pour ça. Philippe, non, donc c'était beaucoup plus construit comme une conférence. Mais il y avait évidemment de la vidéo avec des images de désert, des images de dunes, et sur ces images, des musiques qui venaient de Chine, qui venaient d'Afrique du Nord ou de la péninsule arabique, puisque ce sont là que sont les plus grands déserts du monde. Et puis, comme lui aime la musique brésilienne, eh bien, il a aussi amené une grosse formation de choro brésilien.
Ah, on peut faire ce qu'on veut, en fait. C'est oui. Ça. On part tout seul et puis après, on peut inviter un orchestre philharmonique. Quoi.
Mais cette philharmonique, j'aurais du mal à le caser dans ma salle.
Ça serait compliqué.
Pour quelle raison cette forme un peu moins aboutie qu'une pièce de théâtre avec un auteur, un metteur en scène, des acteurs, vous semble-t-elle avoir une place dans votre théâtre, justement?
Eh bien, ça me semble avoir une place parce que je crois que les gens ont envie de voir des scientifiques.
Et donc, pas seulement le discours de la science.
Pas seulement le discours de la science.
Cette drôle d'espèce, Susanna.
Oui, mais oui, mais on se rend compte que le grand public, comme on l'appelle, n'a pas forcément une vision très claire de ce qu'est un scientifique dans son labo, qui a une vision très, très, très particulière, très caricaturale.
Non,
mais ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que vraiment vous mettez le doigt sur ce qu'est Homo sapiens. C'est pas un être qui s'intéresse simplement à son confort, à avoir du chauffage, à pouvoir manger tous les jours, mais s'intéresse aussi à d'autres choses, à la connaissance, et c'est quelque chose qui nous caractérise quand même.
Oui, mais c'est vrai qu'on peut faire passer la science à travers une pièce de théâtre aussi, et on le fait très régulièrement. Galilée le mécano, bientôt Rêves émotifs d'après Alexandre Grothendieck, Le paradoxe des jumeaux sur Marie Curie. Mais là, c'est différent. C'est que le scientifique s'adresse directement au grand public.
Il y a plus souvent des scientifiques qui s'intéressent à des formes artistiques que le contraire. Est-ce que ce que je dis là est une vérité? Est-ce que effectivement le monde artistique est peu curieux de la science?
Je crois que c'est plus vrai.
C'est plus vrai aujourd'hui?
Non, c'est plus vrai et peut-être c'est... Parce qu'il n'y avait pas de lieu non plus. Le fait qu'il y ait un théâtre où la programmation est essentiellement basée sur la science fait
que... Vous sentez venir des choses.
Ah mais oui, oui, oui. Des compagnies commencent à s'intéresser à la science, sciences dures et sciences humaines aussi. Il y a énormément de spectacles basés sur des études sociologiques. On a en ce moment, jusqu'à dimanche, La magie lente de Denis Lachaud dans une mise en scène de Pierre Note qui est sur la psychanalyse.
Alors donc, les prochaines dates, 5 février,
oui, c'est quand,
2
c'est
avril, et puis ensuite, vous voyez, j'en perds mon latin, 28 mai et 11 juin. Donc à chaque fois, c'est un scientifique différent, ouais. Et donc une forme artistique assez différente.
En février, ce sera qui, Elisabeth
Alors
Bouchot
ça sera la physicienne Florence Elias, mm-hmm. qui étudie les films de savon, et il y aura un trio de musiciennes autour des 10 films de savon pour les faire danser.
Tiens, très curieux en tout cas, et si on souhaite en savoir plus, il y a tout le programme sur le site du Théâtre de la Reine Blanche.
Et puis quand même un petit scoop, parce que le Théâtre de la Reine Blanche c'est à Paris, mais Elisabeth Bouchot, vous allez ouvrir un lieu à peu près identique à Avignon.
Bravo.
Oui, absolument.
Et ce sera quand, a priori?
Pour le prochain festival d'Avignon.
Très bien.
Voilà. Avignon Reine Blanche.
Et en attendant, c'est 2 bis passage Ruelle dans le 18e arrondissement. Voilà, merci beaucoup. Vous restez avec nous, évidemment, Elisabeth Bouchaud. Dans un instant, on parle de cette bande dessinée sur la science improbable.
Mélocotone et boule d'or, deux gosses dans un jardin. Mélocotte, nous, elle est maman. J'en sais rien. Tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Mélocotone, mémé, elle rit souvent. Tu crois qu'elle est toujours contente? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Périnée, elle est grande, presque comme maman. Elle joue pas avec moi. J'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Christophe, il est grand, mais pas comme papa. Pourquoi? J'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Dis, Mélocotone, tu crois qu'il nous aime? Boule d'or, j'en sais rien. Viens, donne-moi la main.
Voilà une petite jeune femme qui commence Colette Mani avec Mélocotone.
La tête au carré, le club. Sur France Inter.
Zoé Touron, Pierre Barthélémy, vous êtes nos derniers invités cet après-midi avec cette bande dessinée. Zoé, vous pouvez m'aider à donner le titre, s'il vous plaît?
Les improbablologies.
Bravo, ça sort chez Juno.
Je suis arrivée.
Vous êtes beaucoup entraînée, même vous, en tant que dessinatrice justement de cette BD. Adaptation des chroniques de Pierre Barthélémy, chroniques de science improbable, qui étaient publiées dans Le Monde, hein, Pierre, c'est ça? C'est fini?
Oui, exact, c'est fini. Ça s'est terminé par lassitude du principal et seul auteur.
Et ça vous rattrape, en fait.
Eh oui, malheureusement, le succès me rattrape.
En toute modestie.
Non, bien sûr. Non, mais ce qui est fou, c'est que les gens m'écrivent encore pour me les demander.
Ah ben, évidemment. Mais c'est bien aussi cette formule à la bande dessinée.
Oui, ça
les fait revivre,
ça change
d'une autre manière.
Exactement.
Alors Zoé Touron, tout à l'heure, disait que c'est elle qui choisissait les textes. C'est comme ça que ça s'est passé, Zoé?
Oui.
C'est vous qui avez sélectionné les articles de Pierre ou pas?
Elle a tout fait, j'ai rien fait, moi.
Mais oui, j'ai l'impression.
J'ai eu accès aux compilations qui ont été éditées
chez Duno.
Mm-hmm. Et puis ensuite, il fallait bien en choisir quelques-unes pour tenir sur... Je sais pas, une vingtaine de chroniques.
Alors, ouais, c'est ça. Et alors, vous les avez choisies en fonction de quoi? Parce que, en tant que dessinatrice, est-ce que la science est compliquée à représenter ou pas? Est-ce que justement, vous avez choisi celles qui étaient les plus visuelles possibles?
Ben, au début, c'était ça qui était un petit peu compliqué. Et dès l'instant que j'ai trouvé mes deux protagonistes.
Oui, Nadine et
voilà,
le doc.
Et le doc. Ouais. Très vite, ça s'est imposé à moi, l'idée qu'il fallait que je mette en scène toujours dans le labo, à l'inverse. Ouais. Je continue dans le cliché pour rester dans le...
C'est l'homme à la blouse blanche. Hein.
C'est l'homme à la blouse blanche avec son assistante, Nadine.
C'est ça, qui elle aussi est un petit peu cliché. Hein.
Oui, mais elle est quand même très... Non, pas du tout cliché.
Non, mais défendez-vous. Hein.
C'est lui le scientifique un peu imbu de lui-même, sûr de lui. Et Nadine, elle en a un peu... Elle laisse passer... tous ces caprices.
Donc ça, c'est une bonne idée, Pierre Barthélémy, de trouver justement deux protagonistes pour mettre en scène ces histoires de science improbables.
Oui, c'est vrai que la difficulté, c'était, moi, c'est ce que j'ai dit à Zoé au début, c'était qu'il fallait qu'elle se lâche, en fait. Parce que c'est vrai que le carcan de la science peut être parfois pesant, impressionnant même, pour quelqu'un qui n'en a pas l'habitude. Et donc, l'idée, c'était vraiment, comme moi, je me lâchais quand j'écrivais mes horreurs, c'était qu'elle arrive à se lâcher aussi. Et c'est vrai que le personnage de Nadine a vraiment beaucoup aidé. Parce que moi, je pensais surtout au début au personnage du docteur Burp dans les chroniques de Gottlieb, qui était tout seul dans les cases. Et là, c'est vrai que Zoé a eu l'idée de rajouter une assistante qui arrive très très souvent à faire sortir le doc de ses gonds de ses certitudes aussi. Ouais.
Alors, rappelez-nous juste, Pierre Barthélémy, le principe de ces chroniques de science improbable, parce que le départ, c'est quand même une vraie publication scientifique. Hein.
Alors, à chaque fois, chaque fois, il y a une vraie publication scientifique. La science improbable, c'est cette science qui répond à toutes les questions les plus loufoques, parce que justement, l'idée, c'est que il n'y a pas de questions idiotes. Il peut y avoir des questions loufoques, mais il n'y a pas de questions idiotes. Et que la science est armée pour répondre à toutes les questions possibles.
Sauf que là, finalement, Zoé Touron, c'est une bonne porte d'entrée aussi pour aborder la science. Parce que là, il y a quand même beaucoup de rire dans ces publications. C'est comme ça qu'elles ont été choisies aussi. C'est pour leur aspect curieux, amusant, décalé.
Ah bah, de toute façon, il n'y avait pas trop le choix dans le panel qui était proposé. À chaque fois, les questions, c'était des choses complètement... improbable.
Qui aime la pâtée pour chat, par exemple. Alors, question qui peut paraître simple comme ça, mais quand on rentre dans l'étude Pierre Barthélémy, c'est vraiment des scientifiques qui ont mené ce travail sur des humains.
Oui, parce qu'en fait, c'est difficile de demander à un chat s'il aime ça ou pas, parce qu'il parle pas. Ouais. Donc, il fallait demander à des gens qui étaient dotés des homo sapiens, dotés de l'usage de la parole. Ouais. Et donc, on leur a vraiment fait goûter les aliments pour chat.
On a un peu la nausée en lisant cette plaquette, d'ailleurs. Hein.
C'est Nadine qui goûte ou bien
non,
cette professeure?
Non, parce que c'est un passage où elle est partie en vacances. Du coup, elle peut pas.
Il y a donc un panel d'Homo sapiens qui a goûté différentes pâtés pour chat. Alors justement, le principe aussi, il est très simple. Hein. C'est deux pages à chaque fois sur chaque histoire, Zoé Touron.
Oui.
Et puis un bilan à la fin. C'est-à-dire qu'on a, on a la réponse aussi à l'étude. Hein.
Bah, parce que l'idée, justement, c'était de partir en vrille.
Oui, exactement.
et c'était déjà suffisamment... comment ?
Il fallait se décaler du texte original.
Qui déjà, lui, était quelque chose de décalé et... Et donc, il fallait que je trouve des solutions pour pouvoir... je me suis mise à une espèce de fil rouge, finalement, les deux personnages de base.
Ouais.
Et ensuite, au milieu de ça, je pouvais...
Broder.
Broder, naviguer à vue un petit peu.
Alors, c'est quoi le bilan sur la pâtée pour chat, Pierre Barthélémy? Est-ce que ça m'intéresse quand même de le partager avec les auditeurs du club cet après-midi?
Eh ben, la pâtée pour chat, c'était des propriétaires de chats qui on a demandé de goûter ce qu'ils donnaient à manger à leurs animaux.
Et c'est des plats aux poissons, je crois, qui
sont arrivés en premier. C'est des plats aux poissons qu'ils ont aimés, mais ce qui est fou, c'est que si je me souviens bien, il y a aussi des gens qui ont trouvé ça bon.
C'est affreux.
Non, c'est ça veut dire qu'on soigne bien nos animaux.
Bactéries, salmonelles et gros bobos au ventre. Alors évidemment, on va pas tout spoiler non plus, hein, parce qu'évidemment, le bilan est toujours très intéressant. Mais là aussi, ça fait partie des études qui ont été menées sur finalement l'alimentation qui tombe par terre et voir de quelle façon elle était contaminée par les bactéries.
Il y a un cliché qui dit que si la nourriture est tombée moins de 5 secondes au sol... on peut la manger.
Oui.
Et donc, le test a été fait pour savoir si, en moins de 5 secondes, c'était contaminé ou pas. Et effectivement, ça se contamine très très vite. Ouais.
Et il faut préférer quel sol en particulier?
Honnêtement, je me rappelle plus
trop. Je crois que c'est la moquette.
Ouais, c'est ça. Il y a des choses qui absorbent bien, qui retiennent bien les bactéries, qui les empêchent d'aller sauter sur votre sandwich qui est tombé par terre.
C'est ça. Est-ce que les Américains font plus de sciences improbables que les Européens ou que les Français? Parce que vous êtes allé puiser quand même beaucoup dans les études anglo-saxonnes, très nettement.
Il se trouve que les anglo-saxons font plus de sciences de toute manière que les Français. Donc, statistiquement parlant, c'est vrai. Ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, de toute façon, oui, c'est surreprésenté par rapport aux chercheurs français. C'est
clair. Ouais. Alors, il y a eu des études, par exemple, sur Patator. Alors ça, je ne connaissais pas Patator.
C'est moi qui l'ai inventé,
Patator. Ah bon, alors c'est pour ça, c'est la nouvelle coqueluche des ados. Ouais. Mais il y a quand même eu une étude sur le lancer de patates.
Hein. Oui, en fait, il y avait ces dispositifs qui étaient fabriqués dans le garage, où on faisait avec des tuyaux et de l'air comprimé, où on pouvait propulser des patates. Et en fait, l'idée, c'était de savoir quelle était la violence du tir, parce que c'est dangereux si on se prend une patate tirée par ce dispositif dans la tête, on peut facilement y perdre un œil. Il n'y a pas seulement les flashballs qui font mal.
Ouais. Et alors, du coup, Zoé?
Et comme les deux pages de bande dessinée qui résument à chaque fois chaque chronique ne parlent pas forcément des chiffres, d'où l'importance de remettre en situation et dans son contexte avec une introduction et une
et le bilan.
Mais voilà.
Ah, mais le bilan, on le lit évidemment.
On voit quand même que c'est sérieux. Et
c'est
que
le climax de l'étude, effectivement. Mais c'est quand même incroyable que des gens soient financés pour mener toutes ces études.
Alors, je vais quand même mettre un bémol. Il y a quand même un certain nombre de chercheurs qui font ça sur leur temps libre, mais ils arrivent quand même à se faire publier dans des vraies revues.
Ouais.
Et dans la science improbable, il y a quand même une catégorie que j'ai inventée un peu inventée. parler, c'est les gens qui font la science improbable sans même s'en rendre compte, sans même rendre compte que c'est drôle en fait. Si on fait juste un tout petit pas de côté, la question qu'ils abordent devient loufoque. Donc parfois, je rends un petit peu comique, loufoque, ce qui ne l'est pas au départ.
Ouais. Est-ce que vous avez une certaine indulgence par rapport aux biais possibles, évidemment, dans ce type d'études également? Parce que votre choix, vous le faites aussi parce que la publication fait sourire, mais du coup, sur le sérieux scientifique, parfois c'est discutable.
Honnêtement, à partir du moment où c'est publié dans une revue à comité de lecture, on peut quand même se dire qu'on peut faire confiance aux professionnels, même si parfois il peut y avoir des dérapages. Mais dans l'ensemble, moi, je fais confiance aux mécanismes, aux dispositifs scientifiques, à la méthodologie scientifique.
On a vraiment testé des ogres humains. Ça a été mené par des scientifiques dans l'American Journal of Rodent Genealogy. peu importe. Mais c'était en 2007, c'est ça? Qu'est-ce qu'on a étudié exactement?
En fait, il y a des compétitions, surtout aux États-Unis, où une compétition de bouffe, il n'y a pas d'autre mot, où on demande aux gens de manger, en général des hot dogs, mais aussi d'autres choses, le plus vite possible, le plus possible et le plus vite possible. Et les chercheurs se sont demandé, mais comment c'était possible d'avaler une soixantaine de hot dogs en quelques minutes? Parce que l'estomac, comment faisait l'estomac? Est-ce que l'estomac était capable d'évacuer en même temps qu'on ingérait, ou est-ce que l'estomac se dilatait pour pouvoir accueillir toute cette nourriture? Et en fait, c'est la deuxième hypothèse qui est la bonne.
Ouais. Et donc,
il a fallu tester.
Il y a une conclusion sur l'élasticité de l'estomac.
Exactement, l'estomac peut être rendu plus élastique qu'il ne l'est naturellement.
Sophie Bécherel.
On évoquait le peu d'attrait de la société française en général pour les sciences, ou du moins une certaine timidité. Est-ce que vous l'avez eu? Et puis, est-ce que finalement, ça vous a attiré, ces sujets scientifiques?
Zoé Touron.
Oui. Non, j'avais un attrait déjà avant.
Ah, vous aviez un a priori favorable.
Oui, très favorable. Et je parlais peut-être d'un bouquin que j'ai lu l'année dernière de Audrey Dussutour.
Ah oui, sur le blob, bien sûr.
Et donc ça, par exemple, c'est un truc qui me fascine.
Le blob
vous
fascine.
Et ça vous a inspiré.
Non, mais puis toute la démarche qu'elle a faite, enfin le bouquin qu'elle a écrit, d'ailleurs, c'est peut-être ça aussi qui m'a inspiré, le fait que ce soit dans un labo.
C'est vrai. Elle est venue ici, Audrey Dussutour, avec ses blobs, justement. Elle nous en avait parlé à ce micro. Moi, je vous remercie d'avoir dessiné un fox terrier, parce que j'adore ce chien. Mais alors, il est dans un état... C'est Mimoun. Mimoun, le fox terrier. Mais alors,
il est mort, d'abord.
Il est mort, bien sûr. C'est affreux, cette expérience, parce qu'effectivement, elle est véridique. Oui. Elle a été menée dans les années 30, c'est ça,
Pierre? Oui, c'est ça. Je me rappelle plus très bien, mais c'est vrai que le chercheur a voulu ressusciter
des chiens
qu'il les a appelés Lazare. Voilà. D'ailleurs, pour lui dire, lève-toi et marche.
Donc, il tuait des chiens et il les faisait ressusciter. Mais ça marchait vraiment?
Il essayait de voir s'il pouvait faire, avec des mécanismes de bascule, refaire repartir la circulation sanguine, etc.
C'est ça.
Etc.
Avec une pompe à vélo.
Ouais, enfin bon, des horreurs.
C'est ça. Et ça a fonctionné. Il y a une fois où ça a fonctionné. Et alors, il faut voir le dessin proposé par Zoé Touron de Mimoun, qui est sur des roulettes, mais dans un état très improbable, justement. Voilà, merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Ça, c'est une très bonne idée de cadeau également. Ça sort chez Duno. C'est très drôle. C'est de la science pour se détendre, mais... Chez, pardon?
Jungle
et Duno aussi. Il y a les deux, effectivement, puisque c'est adapté d'un livre précédent qui avait été publié par Pierre Barthélémy. Sur quoi vous allez travailler maintenant, Zoé Touron?
Eh bien, je suis en train de travailler sur le burn-out.
Ah, ça, c'est un bon sujet aussi.
Oui.
Encore un sujet scientifique, vous voyez. Bon, vous reviendrez en parler. Ce sera votre deuxième radio, parce que c'était la première, en l'occurrence, aujourd'hui, pour votre baptême. Et bravo, vous l'avez brillamment réussi.
Merci.
Allez, on passe à l'agenda. Sophie Bécherel.
Dernier jour pour voir Météorites entre ciel et terre, exposition sur les météorites, évidemment, au Muséum National d'Histoire Naturelle. Elle a déjà conquis 250 000 visiteurs qui ont pu découvrir l'histoire de ces cailloux extraterrestres, leur origine, leur diversité, leur intérêt pour mieux comprendre la constitution du système solaire. On peut même toucher une météorite dans cette exposition. Le Muséum possède une jolie collection qui est venue s'enrichir ces jours derniers de nouveaux spécimens, des cailloux noirs ramassés dans le désert de l'Atacama au Chili. Il y en avait 1000 qui ont été classés par les scientifiques, et 100 sont désormais entrés dans les collections du muséum. L'une d'elles, hélas pas encore visible dans cette exposition, est une météorite de fer sur laquelle on peut voir des fleurs de graphite. C'est extrêmement joli. On mettra la photo sur le site et une autre vient de mars. C'est donc jusqu'au 6 janvier. C'est pour ça que je disais, ce sont les derniers jours. Il nous reste quelques jours également pour célébrer le 250e anniversaire de la naissance de Joseph Fourier. Savez-vous qui est Joseph Fourier autour de cette table?
Un mathématicien.
Bravo. Savez-vous où il est né?
Grenoble?
Non, à Auxerre. De Grenoble, il y a l'université Joseph Fourier. Non, il est né à Auxerre et en toute logique, ce sont donc les Bourguignons qui lui rendent un hommage à l'occasion des 250 ans de sa naissance. Ce scientifique, jeune orphelin, brillant élève, au point de devenir enseignant à 16 ans, figurez-vous, avait été embarqué dans la campagne d'Égypte de Napoléon. Cette expédition militaire était doublée d'une expédition scientifique et donc Joseph Fourier en faisait partie. On lui doit notamment le calcul qui sert à déterminer la diffusion de la chaleur et aussi les séries de Fourier qui est un outil fondamental en mathématiques. Donc, si vous habitez à Auxerre, vous pouvez passer par le muséum de la ville qui vous accueillera gratuitement et vous découvrirez notamment qu'il était copain du frère de Champollion et que peut-être il n'est pas étranger, merci Pierre.
Ah bon,
au fait que Champollion s'est intéressé aux hiéroglyphes.
Ah,
oui, l'Égypte.
Et on va terminer là-dessus, Sophie.
Bien sûr.
Parce que c'est la fin déjà de cette émission. On retrouve de toute façon toutes les infos et l'agenda avec vos propositions scientifiques sur le site de La Tête au Carré. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et passez un très bon week-end.
Merci.